Fun for you avec Partenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, soyez les bienvenus dans le podcast Fun for you, votre podcast dédié à la santé, au bien-être, à la vie intime. Et comme chaque semaine, on se retrouve sur le site de Fun Radio, funradio.be, sur l'application Fun Radio BE, avec un expert ou un invité. Et cette semaine, j'ai la chance de recevoir un super invité. Il s'appelle Agustín Galiana et il me fait le plaisir d'être à mes côtés dans le podcast Fun for you. Fun Radio. Je suis très bien entouré aujourd'hui dans Fun for you puisque j'ai la chance de recevoir Agustín Galiana qui est mon invité. Salut Agustín.
Bonjour, comment ça va?
Ben ça va très bien et toi?
Bah super.
Alors pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es comédien et chanteur notamment. On t'a découvert dans des séries comme par exemple la série Clem, Ici tout commence. Tu as aussi été candidat dans des émissions comme Masked Singer, Danse avec les stars, tu as gagné la saison 8. On t'a aussi découvert
Et j'ai gagné la saison 6 de Masked Singer aussi.
Je l'avais même pas noté, tu vois ça.
Ah, tu vois.
Et puis tu étais aussi jury dans des émissions de télévision, émissions belges en plus,
oui,
Star Maker de Dancer. T'as quelque chose avec la Belgique? Tu aimes la Belgique?
Moi, j'aime beaucoup la Belgique. C'est vrai, en fait, à chaque fois qu'on me demande si j'aime la Belgique, je dis la même chose. C'est que vraiment, j'arrive ici, je me sens à la maison.
Mais je pense que les Belges t'aiment beaucoup aussi.
Oui, mais après, on a quelque chose que... Les Espagnols et les Belges, on a quelque chose qui est pareil. On a une chaleur de cœur, on a une bienveillance, une simplicité. Je sais pas, il y a un truc qui se passe, c'est plus familial. Je me sens ici comme à la maison, quoi.
Tu viens nous présenter ton livre « Un homme debout », c'est ton tout premier livre qui est sorti aux éditions Le Duc, c'était le 10 octobre. Un récit intime et inspirant dans lequel tu partages ton parcours personnel, ton enfance, ton arrivée en France, ta persévérance pour réaliser tes rêves et toujours te remettre debout. C'est pas une autobiographie.
Pour moi, c'est pas une autobiographie. Je vais faire une autobiographie quand j'aurai 80 ans, mais là, c'est vraiment, c'est un bilan. En fait, pour moi, c'est une façon de faire une petite prise de conscience pour voir où j'en suis et voilà. Et si je peux, voilà, c'est un livre qui est en tout cas écrit pour les gens qui ont des doutes.
Alors, on te connaît comme un homme très souriant, très lumineux, toujours de bonne humeur. Dans ce livre, tu dévoiles une autre facette, on va dire, de toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et pourquoi maintenant?
Je suis dans un moment de ma vie que je suis très aligné. J'ai, comme je t'ai dit, les éditions Le Duc sont venues me chercher pour me proposer cette aventure. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je trouvais que c'était important que... Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que la vulnérabilité, la fragilité, la sensibilité et s'exprimer émotionnellement, ça faisait était un patrimoine féminin.
Ouais.
Et moi, je suis là pour revendiquer le contraire.
Parce que
pour dire que les hommes, on peut aussi parler de nos failles, de nos soucis, de nos erreurs, de nos chutes, des moments que tu te trompes, des erreurs qu'on fait et voilà, et toujours se relever et continuer à aller à l'avant et voilà. C'est pour ça que même si aujourd'hui je suis un homme assis, j'écris ce livre qui s'appelle Un homme debout.
Tes blessures, ton enfance, tes doutes, c'est tout ce qu'on retrouve dans ce livre. C'est quelque chose de facile d'écrire comme ça sur toute cette facette que tu ne montres finalement jamais.
C'est pas facile, mais c'est vraiment un plaisir. Surtout parce que tu peux, en fait, quand tu écris quelque chose et tu mets sur les papiers tes sentiments, tes émotions et des choses qui te sont arrivées. Franchement, il y a un genre d'apaisement, de soulagement, de compréhension, de voir les choses depuis un autre prisme, depuis un autre angle. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à faire.
Alors, on en parlait tout à l'heure. Ce livre, il commence par ta victoire dans l'émission Danse avec les stars. C'était la saison 8 aux côtés de Candice Pascal. Elle s'est passée comment, cette aventure?
Bah super. Pour moi, ça a été... Moi, je me suis beaucoup amusé.
Il y a eu un avant et un après, on peut le dire?
Ah bah évidemment. Évidemment, parce que déjà, personnellement, j'ai pu réaliser un rêve d'enfant, parce que je voulais être danseur quand j'étais petit. Et surtout parce que le pas que j'ai pas dansé en Espagne, j'ai pu le danser en France. Ici, en Belgique, vous les avez vus aussi. Mais ça s'est passé super et franchement, ça a changé, ça a été un tournant dans ma carrière impressionnant.
La danse a toujours une place importante dans ta vie et pourtant, pour tes proches, pour ta famille, la danse, c'était pas une carrière, c'était pas vraiment un métier.
Moi, je voulais faire de la danse un métier. Sauf que, comme je dis dans les livres, on m'a pas interdit de danser quand j'avais 11 ans, mais on m'a pas permis non plus.
Ouais.
Et, Et voilà, après, quand on m'a permis de faire ça, que j'avais déjà fait mes études, j'avais passé le bac, j'avais tout ça pour que je puisse après décider ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, avec ma vie professionnelle. Et c'était trop tard parce que mon corps, il était déjà fait. On ne l'avait pas déformé pour qu'il soit prêt pour faire de la danse classique. Mais... Je sais pas si je me suis perdu ou pas.
Non, c'était plutôt clair. Pour revenir à Danse avec les Stars, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette aventure? Comment la production est venue te chercher? Ça s'est passé comment?
Bah, c'est très simple. En fait, comme je fais partie du casting de la série Clem,
ouais.
La première saison, quand je suis arrivé dans cette série, mon personnage, il a été très apprécié par le public. Et tout de suite, on m'a repéré, on m'a dit, est-ce que tu voudrais passer le casting? J'ai passé le casting, on m'a pas choisi cette première année. Et ça a été la deuxième année de Clem qu'on m'a proposé. Et on m'a dit oui, j'étais très heureux.
Parce que le public français et belge, on va dire le public francophone te connaissait comme comédien à l'époque.
Tout
et là,
fait.
Tu as vraiment levé le voile sur une autre facette de ta vie, la danse, parce que les gens étaient directement impressionnés.
Oui, là, bon, j'ai levé le voile sur la danse, mais aussi sur moi-même.
Ouais.
Parce que, en fait, c'était ma peur. Parce que, quand je joue dans la série, je suis Adrien, je suis un personnage. Mais là, il fallait que les gens m'apprécient moins.
Ouais.
Il fallait, voilà, que vraiment le public francophone me rencontre, moi, pas le personnage. Je savais que le personnage, il est très, très aimé par le public, mais, et moi.
On apprend quelque chose en lisant ce livre, c'est qu'on t'a vu danseur, etc. à la télévision, mais c'est que plus jeune, tu as même été go-go dancer.
Oui, quelques mois, mais c'est quelque chose que j'ai fait quand j'avais 18 ans pour avoir un peu plus d'argent. Et en fait, avec cet argent que j'ai gagné, j'ai acheté par exemple mon premier téléphone portable. Mais c'était une vie qui allait pas avec moi. C'était une ambiance qui était très loin de qui je suis, parce que bon, à l'époque, j'avais même pas bu un coca. J'ai jamais aimé les boissons comme ça. À l'alcool, j'y goûtais pas. Et après, je fumais pas non plus. Donc, je rentrais chez moi en puant le whisky, en puant la cigarette. Et c'était pas mon truc.
T'étais pas vraiment à ta place là-bas.
Non, mais après, je me suis amusé. J'ai appris beaucoup de choses. On s'est changé n'importe où, dans n'importe quelle cave. Tu vois, c'est des expériences de la vie que je garde avec beaucoup de d'amour, quoi.
Alors dans ce livre, tu reviens aussi un peu sur ton enfance, notamment le divorce de tes parents. C'était une première dans ton village en Espagne, tu avais 6 ans à l'époque. C'était quelque chose d'assez nouveau, ça a été une période assez difficile pour toi.
Oui, j'ai pas bien vécu cette partie de ma vie. En fait, la séparation de mes parents, je me rappelle même pas de mes parents ensemble. C'est quelque chose que je regrettais toute ma vie. J'aurais adoré... Bon, ça, c'est un rêve que j'avais de personnel, de pouvoir m'installer à table avec les deux et, je sais pas, un jour faire un repas,
ouais.
pour avoir ce petit moment en famille que j'ai jamais eu et j'aurai jamais. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses de la vie qui nous arrivent. Et après, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie qui lui arrivent à beaucoup de gens. Donc, je voudrais pas non plus être frivole et dire que voilà.
Toute une période de ta vie, tu n'as même pas parlé à ta mère, 7 ans quand même. Mm-hmm. T'as des regrets par rapport à tout ça?
En fait, c'est elle qui nous a pas parlé, parce qu'elle a pas bien vécu une conversation que j'ai eue avec elle. Oui, j'ai des regrets, évidemment que j'ai des regrets. J'ai des regrets sur la forme, mais pas sur le contenu.
Aujourd'hui, tout va bien?
Oui, très bien, évidemment. On s'est rencontrés, on s'est réconciliés. Et c'est ma maman, je l'adore, je suis très fier d'elle. J'ai jamais arrêté de l'aimer. Hein.
Oui,
comme
oui,
elle,
oui.
Elle m'a jamais arrêté, elle n'a jamais arrêté de m'aimer non plus. Mais parfois, tu vois, on n'est pas parfait, on fait des choses, on fait des erreurs. Parfois, on ne choisit pas la bonne formule, le bon mot, la bonne manière de dire les choses. Et voilà, on se trompe, mais on continue la vie et voilà, on apprend et la prochaine fois, je ferai autrement.
Tu reviens aussi sur la disparition de ta sœur, un sujet qui est assez tabou dans la famille. Tu l'as même appris très tard,
l'existence
de cette sœur, tu avais plus de 30 ans.
Oui.
Comment ça s'est passé?
Bah, ça a été spontanément dans une conversation avec ma mère. Elle me l'a dit comme ça et...
Pas de photo, vous n'avez jamais été sur...
Non.
Au cimetière j'ai...
Non, jamais. En fait, il n'y a pas de plaque au cimetière, même pas.
Ah ouais?
Ouais, c'est... Pour moi, c'est scandaleux. Mais ça fait partie de comment on gère les choses à un moment donné. Et surtout, c'était l'époque aussi. C'était le lundi, il y a beaucoup... Bon, pas que dans ma famille. Dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de silences, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de... entre guillemets, des secrets. Pour moi, c'est pas un secret. Pour moi, c'est quelque chose que ma mère, elle a pas voulu parler, parce que j'imagine que ça lui faisait très, 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 très mal. Mais j'apprécie beaucoup qu'elle m'ait confié ça parce que j'ai compris pourquoi j'ai jamais joué le rôle de grand frère, parce que je l'étais pas.
J'ai vu dans une autre interview que tu parlais même d'enfant de remplacement. C'est un rôle que tu as
pas
eu.
Pas de remplacement. Moi, j'étais, en fait, l'enfant qui naît après la mort de, le décès d'un bébé, c'est un enfant arc-en-ciel, on dit. Il vient guérir une blessure. Un enfant de remplacement, c'est autre chose. Un enfant de remplacement,
c'est plus pour oublier l'autre.
Oui. Et même, il y a des situations, il y a des mères qui ont vécu la même chose que ma maman et qu'ils acceptaient pas le bébé qui arrive après. Parce qu'elles disent, non. Je voulais pas celui-là, je veux celle que j'avais eue, tu vois. Pour moi, ça a été complètement différent. J'étais très aimé, j'étais très attendu, on m'a beaucoup protégé et voilà. Et c'est grâce à tout ça que je suis comme je suis aujourd'hui. Mais ce qui est incroyable de la mort de ma sœur, c'est qu'il y a même pas des plaques au cimetière. Il y a même pas dans les carnets familiales, elle n'existait pas. C'est écrit non viable. Chose que je trouve affreux. Parce qu'elle existait, quoi. Elle a vécu quelques jours, mais, et c'est pour ça que je dédie ce livre à ma sœur, parce que je trouve que c'est une façon d'honorer sa place dans la famille. De revendiquer sa place dans la famille.
Avec du recul, tu penses que toutes ces blessures ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui?
Ben, évidemment. Évidemment, on ne se construit pas avec les moments de bonheur.
C'est vrai, ça c'est très beau comme phrase.
On se souvient des moments de bonheur qui créent des souvenirs magnifiques, mais on se construit avec les failles, avec les erreurs, avec les moments qui nous font mal. C'est ça qui nous fait apprendre la vie, comment est la vie.
Tu es né en Espagne, toi, avant de rejoindre Paris en 2013, avec des rêves plein la tête, j'ai envie de dire. T'as quitté ta famille, tes amis, t'avais même pas vraiment beaucoup d'argent, tu t'es retrouvé dans un tout petit appartement, contrairement à ce que t'avais connu en Espagne. Pourquoi la France, finalement?
Waouh, je pense que il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que c'est à côté de l'Espagne, c'est à côté de la maison. J'ai un très bon ami qui m'a logé quelques mois quand j'y suis arrivé, parce que quand j'y suis arrivé sans parler la langue, sans argent. J'avais 1000 balles dans la poche. J'avais pas d'appartement, j'avais pas d'amis, j'avais rien. Et en plus, il y a quelque chose qui m'a fait fantasmer avec la France et avec les Français, et c'est mon papa. En fait, mon père, il était prof de français, mais il n'a jamais parlé un mot de français.
Ah ouais?
Ouais, à la maison, jamais. Mais mine de rien, ça m'a provoqué, quelque chose dans l'inconscient, ça m'a amené ici. Et aujourd'hui, je parle mieux qu'il le parlait.
Mais c'est vrai que tu parles très bien le français, pour l'avoir appris quand même un peu sur le tard, on va dire.
Je l'ai
appris très bien le français.
Je sais pas si je parle très bien français, mais avec mon accent quand même.
Oui, mais ça ajoute un petit charme.
mais c'est vrai que c'est grâce à tous les textes que j'ai lis depuis que j'ai commencé à travailler comme comédien en France et en Belgique. Tellement de lectures, tellement de livres, tellement des chansons apprises aussi. Et c'est grâce aussi aux chansons, le cinéma, la radio aussi. J'ai fait tout un travail aussi pour essayer de pouvoir m'exprimer comme je m'exprime en espagnol, quoi.
Et quand t'es arrivé en France, t'avais un objectif, tu t'es dit, je me donne X mois pour arriver à trouver quelque chose. Mais ou pas vraiment, tu t'es dit, je suis un électron libre, je vois où ça me mène.
J'étais même pas un électron. En fait, je suis arrivé pour essayer de survivre, pour essayer de continuer ma vie. Moi, je cherchais n'importe quel boulot. Pour moi, les métiers artistiques, c'était mort. Parce que t'arrives, tu parles pas la langue, tu t'es dit comment tu vas travailler au théâtre si tu parles pas un mot de français. C'était mort, déchet mort. Pour moi, le plus important, c'était de trouver un travail pour pouvoir me nourrir, pouvoir payer un loyer, pouvoir continuer ma vie, quoi.
Et la série Clem, par exemple, c'est arrivé comment?
La série Clem, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je suis arrivé fin 2012 et la série Clem, ça a été en mars-avril 2015.
Ah ouais.
Donc j'ai eu besoin de 2 ans et demi pour pouvoir arriver à ça. Donc, je suis arrivé, j'ai fait bar serveur, j'ai travaillé comme vendeur, et finalement, j'ai trouvé un travail magnifique comme guide touristique à Paris, et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi.
Oh, mais c'est génial, ça.
Ouais.
Tu connais bien la ville, du coup.
Très bien.
Si un jour on va à Paris, on peut t'appeler.
Je te donne mon téléphone, on finit son interview.
Qu'est-ce que tu aimerais dire au petit Agustin, enfant qui est en Espagne avec des rêves plein la tête?
Oh là là, mais t'as lu le livre ou pas?
Alors, j'ai pas eu l'occasion de le lire entièrement.
si tu l'aurais fini, t'aurais vu que j'écris une lettre.
Ah ouais?
À l'Agustin qui avait 6 ans. Et ce que je lui dis, c'est que je le remercie, je lui demande pardon aussi d'avoir oublié parfois ses rêves, mais je le remercie d'être le garçon qu'il est. C'est lui qui m'a donné le courage de continuer, c'est lui qui m'a égayé, c'est lui qui a éclairé mon chemin, en fait, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est lui qui a porté des lourdes difficulté à l'avant et qui a essayé de s'en sortir. Hein. C'est lui qui a fait face à la tempête, pas moi. Hein.
Alors le livre, on le rappelle, il s'appelle Un homme debout. On a voilà. Un petit peu compris pourquoi, mais pourquoi il s'appelle comme ça finalement ce livre?
Bah justement parce que je suis tombé plein de fois, j'ai eu des galères plein de fois, j'ai fait des erreurs, j'ai jamais été les meilleurs élèves, j'ai jamais été les meilleurs fils. Mais par contre, j'essaie de demander pardon, j'essaie d'assumer mes erreurs, j'essaie de me relever de mes chutes, des moments que je suis tombé, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai construit l'homme que je suis aujourd'hui, parce que je suis un homme debout.
Toujours se relever, c'est un peu le message qu'il faut retenir finalement de ce livre.
Bah, toujours se relever, surtout, toujours croire en soi, quoi. Et toujours, surtout, trouver ta passion, parce que c'est ça qui nous sauve finalement. Je pense que tu peux pas t'en sortir de moments difficiles si t'es pas focus sur quelque chose qui te rend heureux ou sur quelque chose ou poser vraiment l'attention sur quelque chose qui te fait du bien.
Il est destiné à qui ce livre?
À tous ceux qui doutent.
Ceux qui doutent?
Ouais. Parce qu'en fait, si tu finis le livre, tu vas te rendre compte que je suis comme n'importe qui. Je suis un mec, voilà, un mec ordinaire qui vient de l'Espagne,
qui a juste toujours cru en ses rêves.
Voilà,
finalement.
Pas qu'en ses rêves, sinon que voilà, avec la bonne attitude et avec cette obsession que j'avais pour faire quelque chose qui me fasse plaisir, tu arrives à pouvoir t'en sortir, quoi. Parfois on me demande, mais t'as douté de ton talent? Mais moi j'ai jamais réfléchi à mon talent. Moi j'ai jamais pensé si j'en avais, si j'en avais pas. Moi, je pouvais pas vivre sans faire passer un message aux autres, sans faire pas réfléchir aux autres avec mes personnages, avec mes chansons, sans pouvoir. Je peux pas vivre sans communiquer, sans émouvoir, sans faire rire quelqu'un. Et tu l'as vu quand je suis arrivé ici et tout de suite, j'ai brisé la glace. J'essaye de faire qu'autour de moi se passe quelque chose. Mais c'est parce que je suis comme ça, en fait. Et c'est égoïste, en fait, parce que c'est ça qui me fait sentir bien.
C'est quoi tes projets pour la suite, Agustin?
Bon, déjà, à finir cette interview en beauté. écoute, j'ai des projets de fiction qui vont arriver, que je vais tourner en 2026. J'espère que le public va être là. Et il y a aussi un projet d'album auquel je réfléchis et j'y travaille fortement. Et après, voilà. Après, tu vois, je viens de finir une tournée que j'ai fait avec une chorale énorme qui s'appelle Spectacular. On a fait une tournée des Zéniths incroyable, et notamment on a été le 1er juillet à Bercy. Et je m'attendais pas du tout faire ce projet. C'était pas dans mes rêves, c'était pas dans mes projets, c'était pas dans mes attentes. Et pourtant, moi j'adore me laisser surprendre.
On rappelle ton livre « Un homme debout », il est sorti il y a quelques jours aux éditions Le Duc. Merci en tout cas d'être venu nous voir ici sur Fun Radio.
Ça a été un plaisir cette conversation.
Un réel plaisir, et tu reviens nous voir quand tu veux. Si tu as d'autres projets,
super.
Tu seras toujours le bienvenu sur
Fun. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Retrouvez Fun For You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.